France Inter, Ali Badou, Marion Lourd, le 6-9.
Et un grand entretien ce matin au lendemain de l'entretien d'Emmanuel Macron sur TF1 et France 2, largement consacré à la guerre en Ukraine. Et en ce jour où l'élection présidentielle commence, elle va s'étaler sur 3 jours dans le plus grand pays du monde, la Russie, avec un simulacre de démocratie, disent beaucoup de ses observateurs qui considèrent que Vladimir Poutine sera réélu. Il n'y a absolument aucun doute. Nous recevons avec Marion Lourd aujourd'hui en studio 2 invités que je salue, Xenia Bolchakova et Anna Colin-Lebedev. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Xenia Bolchakova, vous êtes journaliste, réalisatrice à l'agence Kappa. On se souvient que vous êtes prix Albert Londres pour un documentaire passionnant sur Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine. Anna Colin-Lebedev, vous êtes politologue, spécialiste des sociétés post-soviétiques, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre. Post-soviétique ou soviétique, il est possible que Vladimir Poutine, réélu, dépasse le record de Staline à la tête de ce très vaste pays. Et nous sommes en duplex avec Sylvain Tronchet, envoyé de France Inter en Russie. Bonjour Sylvain.
Bonjour Ali.
Beaucoup de questions à voir avec vous aujourd'hui. Décrivez-nous Sylvain, à quoi ressemble une campagne électorale lorsque tout est joué d'avance ?
Je serais tenté de dire que ça ressemble à pas grand-chose, à presque rien en fait. Cette campagne électorale n'a quasiment pas existé dans l'espace public russe. On croisait de temps en temps quelques militants dans la rue, mais ça n'a rien de comparable avec ce qu'on peut imaginer dans la plupart des grandes démocraties occidentales. Vladimir Poutine n'a pas fait campagne, il n'avait même pas de programme. Pour vous dire, sur son site internet de campagne, par exemple, il y avait une case agenda du candidat, et pour les mois de février et mars, c'est 2 pages sont totalement vides. Voilà. Donc, en fait, la campagne n'a pas vraiment existé, si ce n'est ces derniers jours, les traditionnelles interviews de dernière minute que donne Vladimir Poutine officiellement pour appeler tous les Russes à venir voter, sans explicitement dire que nécessairement c'est pour lui qu'il le faut. Mais bon, il joue toujours sur cette forme de confusion entre lui et l'État, la patrie.
Oui.
Et voilà, les choses ont débuté ce matin. Voilà.
Est-ce qu'on voit son visage ? Est-ce qu'il y a des affiches électorales ? Est-ce qu'il y a des slogans ? Est-ce que Vladimir Poutine, dont on connaît le culte de la personnalité, apparaît partout dans l'espace public, dans les grandes villes russes ?
Non, on ne le voit pas, si ce n'est
on ne le voit pas
sur quelques. Non, il y a pas d'affiche électorale de Vladimir Poutine, ça n'existe pas. En revanche, j'ai eu l'occasion de le raconter sur l'antenne. Il y a cette grande exposition au parc Vedenka au nord de Moscou qui s'appelle Russie, qui est une espèce de d'hymne à la Russie rêvée, fantasmée de Vladimir Poutine. Où là, en revanche, on voit clairement à certains endroits le visage, les citations de Vladimir Poutine installées partout. Tout cela avec les moyens de l'État. Il y a des millions de Russes, 8 millions de Russes, qui sont venus visiter cette exposition, qui sert en quelque sorte de vitrine de campagne à Vladimir Poutine. On peut le voir comme ça. Et puis, on voit par exemple dans les slogans de la campagne d'État pour appeler à aller voter, des choses qui finalement rappellent ceux qu'utilise Vladimir Poutine. « Ensemble, nous sommes plus forts », par exemple, dit un des slogans qu'on voit de temps en temps sur des métros ou sur des affiches. Officiellement, c'est un slogan qui appelle juste à aller voter, mais tout le monde comprend bien au travers des mots qui sont utilisés pour qui il faut aller voter.
Voter pour moi.
Anna Colin-Lebedev, je ne sais pas si c'est un hasard du calendrier, sans doute pas, mais le président de la République française a donné un entretien hier sur ce thème de la Russie et de la politique de la France par rapport à la Russie et l'Ukraine. Emmanuel Macron a dit que les Européens doivent être prêts à répondre à une escalade de la Russie, mais jamais nous ne prendrons d'initiative, jamais nous ne mènerons l'offensive. Alors, petit exercice peut-être de psychologie, si on se met dans la tête de Vladimir Poutine, qui est en train de jouer les élections déjà gagnées d'avance. Comment est-ce qu'il peut recevoir, lui, ce discours du président français ?
Alors, je pense que c'est pas la peine de se mettre dans la tête de Vladimir Poutine, mais plutôt de réfléchir à la manière dont l'État russe, de manière collective, en fait, peut réagir à ces déclarations
et
dont la population peut réagir à ces déclarations. Alors, dans ce contexte, effectivement, je dirais, La stratégie de communication à proprement parler d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie est assez cohérente en réalité par rapport à ce qui marche dans la culture de négociation russe, dans la manière dont les affaires sont conduites, dans la manière où les conflits sont réglés, c'est-à-dire ce qu'il a essayé de faire au début de la guerre, qui est de jouer le lien personnel pour essayer de construire quelque chose. Ça fait partie des choses qu'effectivement on pratique au sommet de l'État comme à des niveaux à un niveau plus bas, et y aller dans le cash, dans le confrontationnel, déclarer qu'en fait on est prêt à tenir sa position, c'est aussi quelque chose qui est plutôt valorisé dans la culture de la négociation russe. Donc je dirais, voilà, sans me mettre dans la tête de Vladimir Poutine, j'aurais tendance à dire que ça n'apparaît pas forcément comme choquant à la Russie. Quant à la population, si vous voulez, dans la mesure où on leur a dit depuis février 2022 que les armées de l'OTAN étaient de toute façon déjà là, qu'elles avançaient masquées mais qu'elles étaient sur le terrain, eh bien ça ne fait pas événement. Non, ça ne fait pas une grande surprise.
Et le risque d'escalade qui est inhérent peut-être au discours du président de la République, puisque ça a été suivi après sa première intervention sur les troupes au sol par une réponse de Vladimir Poutine qui a reparlé de l'arme nucléaire et de la dissuasion nucléaire. Il est réel ?
En réalité, on a une manière un peu paradoxale du pouvoir russe et du Kremlin de conduire, de réagir dans cette guerre. C'est-à-dire qu'à la fois, on a l'impression que la stratégie du Kremlin va être très réactive, très dépendante du message que nous leur enverrons et du message que l'Ukraine leur enverra. Et en même temps, Poutine ne cesse de répéter ses objectifs maximalistes à chaque fois. Et dans les objectifs maximalistes, néanmoins, l'adversaire qui est désigné est toujours l'Occident. Et ça n'a pas bougé depuis la première journée de guerre.
Ksenia Bolshakova, en 2014, la Russie avait annexé le Donbass. Les Ukrainiens trouvent aujourd'hui qu'on met trop de temps à réagir. Est-ce que la Russie est devenue une puissance qui veut s'étendre et ne s'arrêtera pas ? C'est ce que dit le président de la République française. On a cette impression-là.
La Russie n'a pas annexé le Donbass, mais la Crimée en 2014 et avait lancé donc un soutien très actif aux séparatistes de l'est de l'Ukraine. Alors, il y avait une énorme naïveté, je pense, en 2013-2014, des leaders occidentaux qui se sont dit, effectivement, il va annexer sa petite péninsule et puis il va se calmer.
Nos réactions, elles sont à l'opposé quand même. Enfin, quand on regarde le discours du président de la République hier.
Oui, mais enfin, en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que je voulais juste aussi rebondir sur ce que disait Anna tout à l'heure.
Oui.
Le seul langage que comprend Vladimir Poutine, c'est le langage de la force. Donc il faut lui parler comme lui aime à parler à ses interlocuteurs. Et il faut comprendre aussi que c'est quelqu'un qui ne s'arrêtera pas ni à la Crimée, ni au Donbass, ni à l'Ukraine si jamais il y avait une victoire russe potentielle en Ukraine. Donc quelque part, le discours du président Macron, c'est un très bon signal. C'est aussi ce moment où on comprend qui on a en face de nous, quel type d'adversaire on a en face de nous. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi très important dans le discours du président français, c'est le distinguo qui a été fait entre le peuple russe et le pouvoir russe, c'est-à-dire le Kremlin, Vladimir Poutine et puis son cercle rapproché. Il disait la Russie est un adversaire, mais le peuple russe n'est pas notre ennemi.
Mais ce distinguo, vraiment ?
Je pense qu'il est valide, et moi je pense que c'est très important aussi de l'avoir fait hier, parce qu'on parle d'escalade, on parle d'un discours qui va dans tous les sens, on parle de menaces nucléaires, mais ce distinguo est très important justement à prendre en compte sur qu'est-ce que va faire l'Occident, qu'est-ce que va faire la France dans les mois qui viennent.
Je pense, pour ajouter à ce que dit Ksenia Bolshakova, que l'idée qu'on a un peuple russe complètement derrière son leader, très mobilisé pour la guerre, c'est aussi une idée tout à fait conforme au désir du Kremlin. Hein. Dans la stratégie d'information et de désinformation pratiquée par la Russie.
Mais donc c'est faux.
Si vous voulez, non mais les choses sont bien évidemment verrouillées aujourd'hui et contrôlées par le pouvoir. Mais je pense que nous partageons aussi une sorte de cliché d'une totale adhésion de la population qui, lui, est bien évidemment faux. La situation est bien plus complexe.
C'est pourtant une grille d'analyse qui revient souvent. Les Russes seraient derrière leur leader, derrière celui qui est le successeur des tsars et le successeur de ceux qui ont dirigé l'URSS, comme si finalement, il n'y avait pas de doute sur l'adhésion du peuple ou des 108 millions de citoyens russes qui doivent aller voter aux urnes ce matin jusqu'à dimanche. C'est-à-dire que c'est un discours totalement contradictoire qu'on entend. D'un côté, c'est un simulacre d'élection présidentielle. De l'autre, les Russes sont attachés malgré tout à ce discours de la grandeur retrouvée, de la puissance.
Si les Russes sont attachés à ce discours, et c'est vrai, il y a beaucoup de Russes qui sont attachés à l'idée d'une Russie forte et d'une Russie qui aurait regagné sa place sur la scène internationale après la débâcle des années 90, ça ne veut pas dire pour autant que tous les Russes sont derrière Vladimir Poutine. Et il est quasiment impossible aujourd'hui de mener des sondages d'opinion valides dans un pays qui est en guerre quand même. La plupart des médias indépendants sont partis du pays. L'opposition est soit en exil, soit en prison, soit assassinée. Enfin, c'est difficile de mesurer l'état d'esprit réel des Russes aujourd'hui parce qu'il y a une grande partie de la population qui vit aussi dans la terreur et dans la peur des répressions. Et donc c'est très 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 compliqué de jauger du soutien réel à Vladimir Poutine. Il y a aussi quand même à prendre en compte... On estimait avant
Vous
la guerre.
Vous avez réalisé un doc d'ailleurs en 2023 qui avait un titre extrêmement fort et qui résume peut-être sans doute parfaitement ce qui se passe aujourd'hui. Un peuple qui marche au pas.
Mais il ne marche pas au pas parce qu'il est forcément dans l'adhésion. Il marche au pas parce qu'il a peur de la machine répressive. Il marche au pas parce qu'il s'en fout parfois, parce qu'il préfère fermer les yeux, survivre et être dans une posture de on verra ce qui se passera bien plus tard. Donc il y a énormément de facteurs qui expliquent ce fameux marche au pas.
Sylvain Tronchet, vous qui êtes le correspondant de Radio France à Moscou, quelle est votre impression? Parce que Xenia Bolshakova le disait, il n'y a pas vraiment de sondage d'opinion, mais comment est-ce que vous percevez cet état d'esprit des Russes? Est-ce qu'ils sont vraiment, est-ce qu'ils adhèrent au discours de leur grand chef? Est-ce qu'ils sont derrière Poutine?
Non, c'est une réalité, enfin comme ça a été extrêmement bien dit, naturellement beaucoup plus complexe que cela. Je dirais que si on veut essayer de dessiner les choses à très gros traits, il y a trois blocs. Il y a ceux qui effectivement soutiennent Vladimir Poutine ou en tout cas vont voter pour lui, parfois d'ailleurs qui dans le même temps peuvent nous raconter leur fatigue de la guerre, dire qu'en fait ils souhaiteraient que ça se termine, mais qu'ils font par sentiment légitimiste. Il faut voir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont voter pour Vladimir Poutine parce qu'ils il y a une espèce de confusion entre l'État, la nation, la patrie et le pouvoir. Les gens, par exemple les fonctionnaires, des gens qui vont être très dépendants de subsides d'État, de prestations sociales, vont avoir tendance également à voter pour le pouvoir, ce qui ne signifie pas qu'ils sont dans l'adhésion totale avec Vladimir Poutine. Il y a des gens qui sont des ultranationalistes, va-t-en-guerre également, mais bon. Il y a un deuxième bloc, en gros, qui sont ceux qu'on entend par ailleurs, qu'on a entendu au moment de l'enterrement d'Alexeï Navalny, qui sont les
principaux opposants.
On est un mois, quasiment jour pour jour après l'assassinat d'Alexeï Navalny.
Qui sont les opposants, et ces Russes-là, ils existent, ils sont malheureux pour beaucoup aujourd'hui, j'en parle avec eux ici, ils ne peuvent pas exprimer d'une façon ou d'une autre leur opposition sans risquer de perdre leur emploi, d'aller en prison, enfin le niveau de répression est quand même absolument hallucinant, il faut toujours le rappeler. Et puis Xenia l'a évoqué, il y a tous ces Russes qui au fond regardent ailleurs, qui ont supprimé les applications d'information de leur téléphone mobile, qui se concentrent sur leur vie, leur survie, je dirais aussi parfois, parce qu'il y a beaucoup de pauvreté en Russie. Il ne faut pas oublier cette donnée quand même qui est très importante et qui regarde d'ailleurs, notamment parce que c'est ce que leur répète le pouvoir depuis 20 ans maintenant, que s'occuper de politique est une chose potentiellement dangereuse. Et d'ailleurs, ça finit par se retourner contre le Kremlin aujourd'hui, qui n'a qu'un seul ennemi en fait lors de cette élection, c'est l'abstention.
On va filer au standard au 01 45 24 7000 dans un instant, mais Anna Colin-Lebedev, vous vouliez réagir et j'ai une question toute simple. À quoi ça sert? À quoi ça sert de ce simulacre d'élection, ce théâtre qui est organisé aujourd'hui?
Alors peut-être avant de répondre à votre question, parce que c'est une question effectivement très importante, on a aujourd'hui des données, y compris des données chiffrées, qui permettent de rendre compte des préoccupations des Russes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils attendent en fait, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient voir advenir comme politique? Et leur préoccupation, c'est l'arrêt de la guerre. Alors, ce n'est pas une critique de la décision d'attaquer l'Ukraine, mais ils veulent que ça s'arrête. C'est les problèmes économiques, la résolution de problèmes économiques dont le pouvoir en place est par ailleurs responsable. Il est au pouvoir depuis plus de 20 ans et tout ce qui arrive aujourd'hui en Russie, et le niveau de pauvreté notamment, eh bien il est imputable à Vladimir Poutine et à personne d'autre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on leur pose la question, et pensez-vous que Vladimir Poutine, s'il est élu, eh bien va répondre à ces préoccupations-là, eh bien la plupart vont répondre non. Et ils attendre de lui plutôt des choses, voilà, des décisions qui vont pas le préoccuper, l'escalade qui les intéresse pas, auxquelles il n'adhère pas, l'escalade militaire, la mobilisation. Donc il y a vote effectivement parce que il y a une perception de système très verrouillé et d'absence d'alternative, mais il n'y a pas du tout cette idée que Vladimir Poutine est le candidat qui va répondre aux préoccupations des Russes et qu'il y a un président qui répond aux préoccupations des Russes. Alors pour répondre à votre deuxième question,
à quoi ça sert
une élection ? En réalité, une élection autoritaire est extrêmement importante pour le pouvoir politique. Alors dans celle-ci, les résultats sont fabriqués par avance et sont fabriqués par des technologies électorales. Et pour nous, c'est très intéressant d'observer ces différentes technologies qui, à différents moments de l'élection, assurent le vote. Il n'y a presque pas besoin de bourrage d'urne en ce moment pour obtenir ce que l'on veut. Tout, en fait, est décidé par des techniques électroniques de vote à distance, de vote à l'avance, de population forcée, incitée à voter et contrôlée dans leur vote. Mais le pouvoir en a besoin dans un premier temps, je dirais, pour asseoir sa légitimité. Alors auprès de qui ? Moi, je dirais que c'est auprès de toutes ces petites élites, tous ces notables locaux, toutes ces personnes au pouvoir, pour qu'elles soient convaincues que le pouvoir est toujours puissant, que tout est sous contrôle, qu'aucune dissension n'est possible. Il y a plus de 90 000 bureaux de vote en Russie. Dans chacun de ces bureaux de vote, c'est des gens qui assurent la tenue de cette élection. C'est eux qu'il faut convaincre. Et puis, il faut convaincre les Russes qu'il n'y a pas de choix.
Les Russes... Et notamment, alors, il y a les hommes, les femmes, les mères de soldats. Vous aviez écrit un livre, Anna, sur le sujet, justement, en 2013, Le cœur politique des mères, analyse du mouvement des mères de soldats en Russie. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout plusieurs composantes d'un peuple qui n'est pas uni et qui n'est pas monolithique.
Absolument pas. La société russe n'est pas monolithique, mais comme le rappelait si bien Anna à ce moment, à l'instant, dans le cadre de ces élections, c'est ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que on a une population aussi qui dépend beaucoup dans sa survie économique de cet État. On a une population qui est dont beaucoup de Russes travaillent pour les structures de l'État. Il y a énormément de fonctionnaires. Il y a aussi eu ces dernières années beaucoup, en tout cas Vladimir Poutine a vraiment œuvré dans ce sens-là. Il a placé à la tête de beaucoup d'institutions comme les écoles, par exemple, les primaires, les universités, des personnes qui étaient proches du parti au pouvoir. Donc, il a aussi structuré tout un réseau qui, normalement, était celui de la société civile, autour de son mouvement politique. Et donc, beaucoup de gens vont voter, non pas seulement parce qu'ils sont incités, mais parce qu'ils ont aussi intérêt à maintenir leur propre position au sein de ce système. C'est pas seulement pour les convaincre que l'État russe est fort et que ce pouvoir est assis et qu'il est là pour toujours. C'est aussi pour ces petits fonctionnaires la garantie de garder leur poste, la garantie de garder aussi leur petit pouvoir à leur échelle, à eux.
Bonjour Frédéric et bienvenue sur Inter.
Bonjour Inter et bonjour aux invités à qui j'aimerais demander si l'on a des informations sur les réactions des chefs d'État européens à la suite des déclarations unilatérales de M. Macron, marquant sa différence, je le rappelle, au sortir d'une réunion commune avec ses partenaires et laissant entendre par la suite que ceux qui ne seraient pas d'accord avec lui seraient des lâches.
Merci pour votre question. Est-ce que vous avez une réponse à apporter à Frédéric, l'une ou l'autre ?
Pas vraiment.
Bah écoutez, je pense que le président en a parlé lors de son allocution d'hier soir, en disant que oui, il y avait effectivement des difficultés à convaincre un certain nombre de partenaires, mais que d'autres étaient derrière lui. Alors c'est vrai que ceux qui sont convaincus aujourd'hui de l'importance de cette guerre et de son caractère vital pour nous, c'est essentiellement des pays qui connaissent bien la Russie, qui connaissaient bien l'Union soviétique, notamment les États baltes et la Pologne, qui sont aujourd'hui qui sont amenés à jouer ce rôle moteur. Mais je crois que le président a également dit, et moi je suis en incapacité de juger de ces déclarations, que dans cette guerre, il y a eu à plusieurs étapes, en fait, des situations où il a fallu convaincre. Il a fallu convaincre le collectif de la justesse, du renforcement du soutien, et qu'on était à un moment comme ça.
Il y a eu des réactions, Sylvain Tronchet, dans les médias russes, et notamment dans les médias officiels ?
Les déclarations d'Emmanuel Macron ont été reprises, effectivement, par les médias. Je dirais que, globalement, de ce que j'ai lu, ils ont plutôt relevé les angles morts du point de vue russe, des déclarations d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire lorsqu'il dit « la France ne prendra jamais l'initiative »,« l'industrie militaire française n'est pas prête pour une guerre de haute intensité »,« la France n'est pas en état de guerre avec la Russie », c'est plutôt ça ce que j'ai lu, ou alors, dans les tabloïds pro-pouvoir, très très proches du Kremlin, on ironise plutôt sur les dragons français iront-ils jusqu'en Sibérie, feront-ils un détour par la Bérézina, enfin bon, une dialectique rhétorique assez classique que l'on lit assez souvent ici.
Xenia Bolchakova, on parlait tout à l'heure des opposants à Vladimir Poutine. Il y a un homme derrière les barreaux en couverture du journal Libération aujourd'hui qui s'appelle Ilya Yashin, qui était un ami d'Alexei Navalny, qui est présenté un peu comme le nouvel opposant principal à Poutine. Il est emprisonné pour diffusion de fausses informations, ça c'est entre guillemets. Et il dit qu'il craint pour sa vie. Est-ce qu'il a raison?
Oui, il a raison. Ilya Yashin, c'est une figure de l'opposition russe. Il était proche d'Alexei Navalny, vous l'avez dit. C'était également le bras droit de Boris Nemtsov, qui lui-même a été assassiné en 2015 au pied du Kremlin. Ilya a été condamné à 8 ans et 6 mois de prison ferme pour avoir dénoncé les crimes de guerre commis à Boutcha sur sa chaîne YouTube. Il subit, tout comme Alexei Navalny, des conditions de détention qui sont extrêmement difficiles. Il est à l'isolement très souvent aussi. Il se sent extrêmement seul. L'assassinat d'Alexei Navalny a été aussi un signal très fort envoyé à ces hommes qui sont derrière les barreaux. Il y a bien sûr Ilya Yashin, mais il y a aussi Alexei Gorinov, qui est un élu municipal qui avait lui aussi dénoncé la guerre. Il y a d'autres figures moins connues quand même de cette opposition. Récemment, le site d'information Medusa faisait état d'un chiffre terrifiant. On parlait de 116 000 personnes qui avaient été soit emprisonnées, soit poursuivies pour des motifs politiques en Russie. C'est quand même énorme, 116 000 personnes. C'est-à-dire qu'on n'en est pas encore, bien sûr, aux répressions de 1937 staliniennes. On n'en est pas là, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de citoyens qui sont aujourd'hui en danger dans ce pays-là. Donc le fait qu'Ilya Yashin se pense en danger, c'est totalement plausible. On pense aussi à Vladimir Karamurza, qui a pris lui 25 ans de prison, qui a une santé extrêmement fragile, qui a été victime d'un empoisonnement, tout comme Alexei Navalny, qui n'a pas accès à ses médicaments et qui est en train de croupir en prison, voire de mourir en prison.
Vous avez correspondu avec Yashin depuis sa prison?
Nous, on avait effectivement correspondu avec Ilya depuis sa prison, parce que c'est le seul moyen pour lui de se sentir encore... exister, écouter, et c'est très important de lui écrire des lettres. Et d'ailleurs, si jamais j'ai fait un petit appel ici, si quelqu'un veut lui écrire des lettres, c'est possible d'écrire des lettres aux opposants politiques en Russie via la boîte mail de l'administration pénitentiaire russe. Et cette correspondance est très importante, et l'interview qu'a fait Véronica Dorman dans Libération est aussi très importante.
Anna Colin-Lebedev, on entend le sort qui est fait aux opposants. D'ailleurs, les opposants politiques qui se présentent face à Poutine, en fait, c'est pas réellement des opposants. Il n'y a pas d'opposition qui peut se structurer à ce jour en Russie.
Des réformes législatives et des modes de fonctionnement administratif ont été mis en place progressivement dans les décennies poutiniennes pour rendre très difficile l'émergence à la fois de partis d'opposition et de leaders d'opposition. Mmh. On est à un système qui a voulu fonctionner sur un modèle un peu technocratique où on met des personnalités grises sans ambition politique aux manettes du pays. Et je dirais que cette intensification répressive que nous voyons depuis février 2022, elle nous dit des choses sur le fonctionnement du régime. Le régime de Poutine a toujours été répressif. Mais je dirais son mode de sa stabilité n'était pas assurée par la répression, mais par la fabrication de la loyauté. Et notamment la distribution d'argent, un certain enrichissement de la population à différents niveaux, des entrepreneurs les plus riches au petit russe moyen qui a vu sa retraite augmenter, et ses versements sociaux augmenter. Et puis, je dirais, la promesse de stabilité, la promesse de prévisibilité du lendemain. Et si aujourd'hui il y a besoin d'autant de répression, si aujourd'hui il y a besoin d'une telle fabrication de l'élection et d'un tel verrouillage, ne pas laisser un candidat un peu différent s'exprimer de peur que ça ne provoque une vague que le pouvoir ne puisse pas contrôler, eh bien ça ne nous montre pas la solidité d'un régime. Hein. Un régime autoritaire, plus il devient répressif, moins il est solide.
Sylvain Tronchet, comment la presse dans ce contexte peut travailler? Comment vous travaillez-vous? Quelles sont vos conditions de travail?
Pas toujours très simple, pour être très honnête. Je rappelle quand même qu'il y a un journaliste occidental qui est emprisonné en Russie actuellement, qui s'appelle Ivan Gershkovitch, qui travaille pour le Wall Street Journal, qui est accusé d'espionnage, des charges que lui et son média démentent. En ce qui concerne les correspondants de ressortissants d'États officiellement qualifiés d'inamicaux, puisque c'est le terme utilisé, voilà, exactement, nous sommes encore encore quand même quelques dizaines à travailler en Russie. On me demande parfois pourquoi est-ce qu'on nous autorise à le faire. Alors souvent je réponds qu'il y a toujours eu des correspondants étrangers dans ce pays, même sous Staline. Peut-être que à certains égards le pouvoir russe estime qu'on peut encore leur servir à quelque chose parfois, ne serait-ce qu'à afficher le fait qu'ils autorisent encore des correspondants étrangers à travailler sur leur territoire, même si ça n'est pas toujours très simple, puis ça leur permet aussi d'avoir des correspondants russes en France, hein, il y en a de ce point de vue-là. Maintenant, travailler dans ce pays où la parole est de moins en moins libre jour après jour est clairement de plus en plus compliqué.
Surtout qu'il y a des sujets tabous quand même, Sylvain, aussi, ça, on en parlait.
Entre... Oui.
Il y a tout un pan de sujets que les correspondants étrangers ne peuvent plus traiter. On parle de l'impossibilité de faire des enquêtes sur le complexe militaro-industriel, l'impossibilité d'aller parler aux veuves des soldats qui sont morts sur le front ukrainien. Il y a énormément de reportages que les journalistes étrangers, et encore plus les journalistes russes, ne peuvent plus faire dans ce pays. C'est-à-dire qu'on a un semblant quand même de liberté de la presse, un semblant de liberté de travail aussi pour les journalistes, et ça c'est très très compliqué, et j'ai l'impression que l'étau se resserre, il y a de moins en moins de sujets qu'on peut traiter dans ce pays-là.
On dit que les jeux sont faits, ça sert à quelque chose de regarder le déroulement de ce scrutin, Anna Colin-Lévedev?
Bien évidemment que ça sert à quelque chose. Et ce qui sert en fait surtout, c'est de voir en fait à la fois les efforts qui sont mis par l'État pour assurer ce résultat que l'on dit couru d'avance. Regardez également, je dirais, la stratégie de ceux qui sont loyaux au pouvoir et sentir les mécontentements de la population qui sont nombreux, qui ne s'expriment pas forcément dans l'espace public, mais qui voilà dans les manifestations et interactions quotidienne, on les voit et le pouvoir ne les prend pas en charge.
Merci à toutes les deux, en tout cas c'était passionnant. Merci Sylvain Tronchet d'avoir été en duplex avec nous depuis Moscou. L'élection donc a commencé aujourd'hui, 3 jours, 11 fuseaux horaires. On comprend donc que ça prenne du temps pour que les 108 millions d'électeurs russes puissent éventuellement aller voter. Vous n'avez pas du tout l'air d'y croire.
C'est la première fois que l'élection présidentielle en Russie se déroule sur 3 jours. Ça quand même on n'en a pas parlé, mais c'est très important. Avant, le vote se déroulait en une journée. 108 millions d'électeurs, c'est pas si énorme que ça. La raison est assez simple, c'est qu'on organise un vote électronique sur la plupart de ces territoires, et ça permet de récolter le nombre de voix nécessaires à la victoire de Vladimir Poutine.